Bon, nous allons continuer nos études sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 19 et nous allons voir ce soir les propriétés de la parole écrite de Dieu, la deuxième partie. Donc, on va regarder ce soir la nécessité, l'unité et l'efficacité de la Bible. Alors, la Bible a été attaquée dans un certain nombre de directions par des personnes se disant des croyants ou non, qui voudraient la supplanter avec des enseignements de l'homme et des sceptiques athées qui rejetteraient tous leurs écrits sacrés. Il y a ceux qui nient la nécessité de la Bible. Certains mystiques suivent une prétendue lumière intérieure et considèrent la Bible en elle-même comme une lettre morte. Certains réagissent contre l'orthodoxie morte en mettant tellement l'accent sur les expériences de l'œuvre du Saint-Esprit que l'étude approfondie de la Bible et la théologie sont amenées à apparaître pédantes, légalistes et même sous-chrétiennes. On lit dans Jean chapitre 14, versets 4 à 6, « Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? » Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » D'autres nuisent à la foi de l'Église dans la Bible en niant son unité. Certains voient la Bible comme une collection disparate d'histoires. Pourtant, la Bible a une profonde unité dans la personne et l'œuvre du Sauveur Jésus-Christ. Nous pouvons lire dans Jean chapitre 5, verset 39 et aussi les versets 46 et 47. Verset 39. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et les versets 46 et 47. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit de moi. Mais si vous ne croyez pas ses écrits, comment croirez-vous à mes paroles? Donc, il y en a qui doutent de la nécessité de la Bible, d'autres de son unité. Il y en a d'autres aussi qui attaquent la Bible à cause de leur manque de foi dans son efficacité ou sa puissance. Cependant, Dieu a révélé que sa parole est essentielle à la vie spirituelle. Oh, on va aller regarder ça dans deux passages. Un dans Jean 1, verset 33. « Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptisé d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et l'autre passage, dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. « Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, on va regarder le premier point, la nécessité de la Bible. Commençons par le verset 10 du psaume 19. « Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. » C'est parce que ce n'est qu'à travers la parole de Dieu que nous pouvons connaître le chemin du salut en Jésus-Christ. Donc, on va regarder la nécessité de l'Évangile pour toute l'humanité. Paul était un théologien missionnaire. poussé par sa commission apostolique à prêcher l'Évangile parmi les nations. On va les regarder dans Romains chapitre 1, deux sections, les versets 4 et 5 et les versets 14 à 17. Versets 4 et 5. Et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat, pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le salut est lié à la parole de Dieu. On va aller regarder deux passages. Dans Romains chapitre 8, les versets 29 et 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Autre passage, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 13 et 14. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelé par notre Évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien entendu, les Écritures parlent du fait que le salut est lié à la parole de Dieu, mais on a dans notre propre confession de foi, celle que on professe dans cette Église, on adhère à cette confession de foi-là, la confession de foi baptiste de Londres de 1689. Alors, bien sûr, cette confession de foi-là enseigne clairement cette vérité-là. Et on peut le lire dans l'article 1 et le paragraphe 1. Alors, je vous lis tout cela. L'Écriture sainte est la seule règle suffisante, certaine et infaillible, de toute connaissance qui sauve de foi et d'obéissance. Quoique la lumière naturelle, les œuvres de la création et de la providence manifeste à la bonté de Dieu, sa sagesse et sa puissance de façon à rendre les hommes inexcusables, elles ne sont pas suffisantes pour donner cette connaissance de Dieu et de sa volonté qui est nécessaire au salut. C'est pourquoi il a plu à Dieu de se révéler à plusieurs reprises et de plusieurs manières et de faire connaître sa volonté à son Église. Ensuite, pour que la vérité soit préservée et mieux propagée, et pour que l'Église soit d'autant plus sûrement établie et affermie en face de la corruption de la chair, de la malice de Satan et du monde, il a plu au Seigneur de la mettre tout entière par écrit. Pour cela, l'Écriture sainte est indispensable, Dieu ayant fait cesser de manifester sa volonté, Dieu ayant cessé de manifester sa volonté à son peuple comme il l'avait fait jusque-là. Alors, bien entendu, dans la confession de foi, il y a toute une série de versets pour prouver chacune des phrases qui est avancée. Je conseille à ceux qui ont une confession de foi d'aller réexaminer l'article 1, paragraphe 1, et aller examiner aussi les versets qui sont avancés pour prouver chacune des parties de phrases qui sont dans ce paragraphe-là. La deuxième chose qu'on va regarder, donc on a vu la nécessité de l'Évangile pour toute l'humanité. Maintenant, on va regarder la publication de l'Évangile sous forme écrite. L'accent mis par Paul sur la prédication met en évidence la transmission orale de l'Évangile comme faisant autorité, comme le principal moyen de convertir par la grâce. Cependant, il entremêle la prédication de l'Évangile avec la parole écrite de Dieu. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 17, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Paul met également l'accent sur les Saintes Écritures en tant que moyen ordonné par Dieu pour propager et préserver l'Évangile. Les dizaines de citations de Paul de l'Ancien Testament dans l'Épître aux Romains démontrent à elles seules sa profonde confiance dans la parole écrite pour la vérité de l'Évangile. On lit par exemple dans Romains chapitre 1, les versets 1 et 2, « Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. » Les documents écrits ont une bien plus grande stabilité dans le temps, une uniformité de contenu lorsqu'ils sont copiés et une universalité d'accès public que les traditions orales. Par conséquent, l'Église ne dépend ni de la tradition humaine faillible, ni des prophètes modernes inconstants, mais du fondement solide de la Bible inspirée. Donc, on va regarder dans la nécessité de la Bible, la troisième idée, c'est celle de la préservation de l'Évangile jusqu'à la fin des temps. On va aller regarder trois passages. Dans Matthieu 24, verset 14, « Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » On a également Matthieu 16, versets 15 à 18. « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre, « je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Et dernier passage, Matthieu 28, versets 18 à 20. « Jésus, s'étant approché, leur parlant ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Et la quatrième idée qu'on va regarder sur la nécessité de la Bible, c'est celle des implications pratiques. Bien entendu, tout cela a des implications pratiques dans notre vie de tous les jours. Première implication pratique, elle a été acquise au prix de la vie de croyants fidèles. Bien sûr, tous ceux qui connaissent un peu l'histoire des traductions de la Bible savent que les premiers traducteurs de la Bible ont été souvent martyrisés, ont fini souvent brûlés ou ils ont eu des conditions de vie extrêmement difficiles. Donc, c'est une des implications pratiques de se rappeler qu'elle a été acquise au prix de la vie et des efforts et des sacrifices très grands de croyants fidèles et érudits. Deuxième implication, nous devrions rendre grâce régulièrement pour ce don que le Seigneur nous a laissé. Troisième implication, nous devrions saisir toutes les opportunités de l'étudier et d'écouter les sermons des hommes fidèles de Dieu. Quatrième implication, nous devrions multiplier les efforts pour la faire connaître, en parler largement et contribuer à écrire sur elle et à les citer abondamment. Cinquième application, nous devrions encourager tous les membres des églises à l'apprécier comme un trésor très précieux. On va passer à la deuxième idée du sermon, c'est celui de l'unité de la Bible en Christ. La parole écrite concerne la parole incarnée, la révélation vivante de Dieu, qui est venue à nous en tant qu'homme Jésus-Christ. La révélation spéciale est une œuvre trinitaire et médiatrice. Le Père se révèle à travers le Fils par l'action effective de l'Esprit-Saint. Personne ne peut connaître Dieu à moins que le Fils ne choisisse de lui révéler Dieu. On va regarder deux passages, Jean 1, verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Deuxième passage, Matthieu, chapitre 11, verset 27, c'est-à-dire 25 à 27. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. » Donc, on va regarder dans l'unité de la Bible en Christ que Jésus-Christ est le grand thème de la Bible. Le Christ lui-même a réprimandé ses disciples de leur lenteur à croire et à comprendre les Saintes Écritures. On va lire dans Luc 24, on va lire deux sections de Luc 24, les versets 25 à 27 et les versets 44 à 47. D'abord les versets 25 à 27. « Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et dont le cœur est lent à comprendre tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. » Versets 44 à 47. « Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Alors, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Donc, la deuxième idée qu'on va regarder dans l'unité de la Bible en Christ, c'est celle des multiples formes de la révélation du Christ dans la Bible. La Bible est un livre varié. Elle révèle Christ de plusieurs manières. Cela nous permet de prêcher Christ à partir de la Bible de manière cohérente, tout en évitant une approche plate, répétitive et prévisible de la parole de Dieu. Nous devons chercher Christ dans les Écritures avec sensibilité aux nombreuses manières par lesquelles l'Esprit choisit de révéler le Fils. Premièrement, nous trouvons le Christ à travers révélé dans les promesses explicites. Par exemple, nous lisons dans le livre de Michée, Michée chapitre 5, verset 2, « Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milieux de Juda. De toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, aux jours de l'éternité. Deuxièmement, nous trouvons le Christ révélé dans les types. Un type est une personne, une institution ou un événement qui est divinement désigné pour préfigurer, quoique imparfaitement, Christ et son royaume. Alors on voit dans Romains 5, verset 14, ça dit « Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. » Le mot « figure » dans ce verset-là, c'est le mot grec « typos » qui veut dire « type ». Donc, on parle qu'ici, Adam était un type de Jésus. Les vies du roi David, des prophètes Élie et Élisée préfigurent Christ dans ses œuvres et dans ses épreuves. Melchisédek est aussi un type prééminent du Christ comme prêtre et roi, dans Hébreux chapitre 7. Les institutions de la prêtrise lévitique avec ses sacrifices et ses places saintes sont une ombre de l'œuvre expiatoire du Christ. On peut lire cela dans Hébreux chapitre 10, verset 1. L'événement historique de la sortie d'Égypte est un grand type du salut en Jésus-Christ, comme le montre à plusieurs reprises le livre de l'Apocalypse, en dépeignant un nouvel et plus grand exode par l'agneau. On sait que l'agneau dans l'Apocalypse, c'est le Christ. Troisièmement, nous reconnaissons la présence du Christ dans l'Ancien Testament à travers les figures surnaturelles de l'ange du Seigneur, soit Dieu le Fils dans son état préincarné, soit des théophanies. Quatrièmement, certains textes de l'Ancien Testament révèlent le Christ indirectement en enseignant notre besoin d'un médiateur de la grâce salvatrice. On lit dans le psaume 14, verset 1 à 3, au chef des chantres de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des actions abominables, il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Paul cite ce texte pour montrer que nous avons besoin de la justice de Dieu en Jésus-Christ, donnée gratuitement par la foi. On va aller regarder deux passages qui sont tous les deux dans le troisième chapitre du livre de Romains. Donc on va regarder d'abord les versets 9 à 12 et ensuite les versets 21 à 26. Versets 9 à 12. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et les versets 21 à 26. Mais maintenant, sans la loi, est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoire afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience afin, dis-je, de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Alors ces textes révèlent notre nature pécheresse, notre corruption, notre culpabilité, notre condamnation et la réalité effrayante de la colère de Dieu qui témoigne indirectement du Christ en éveillant les pécheurs à leurs besoins de sa grâce. Nous pourrions continuer, car la Bible nous montre de nombreuses manières vers Christ. Cependant, nous croyons que le point est bien établi. La Bible a un thème unificateur, et c'est la personne et l'œuvre du médiateur Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Troisième chose qu'on va regarder, c'est les implications pratiques de l'unité de la Bible en Christ. Nous devons lire la Bible en cherchant Christ. Il ne s'agit pas d'encourager une interprétation forcée ou irresponsable. Il s'agit plutôt d'encourager les chrétiens à reconnaître les façons dont la Bible nous oriente au-delà de nous-mêmes vers le médiateur. Paul indique que nous pouvons le faire, même en tant que parents, enseignants à nos enfants, quand il écrit, par exemple, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 15, « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Nous devons donc lire la Bible en priant pour l'illumination de notre compréhension par le Saint-Esprit, comme nous pouvons le lire dans Éphésiens chapitre 1, versets 16 à 18. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. » Et on passe à la troisième idée qui était celle de l'efficacité de la Bible. La Bible est divinement conçue pour une application efficace. Nous lisons dans 2 Timothée chapitre 3 verset 16 et 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Le pasteur et théologien William Ames, qui a vécu de 1576 à 1633, c'était un puritain, et a écrit la chose suivante, je vous le cite. « Sous forme d'expression, l'Écriture n'explique pas la volonté de Dieu par des règles universelles et scientifiques, mais plutôt par des histoires, des exemples, des préceptes, des exhortations, des remontrances et des promesses. Ce style convient le mieux à l'usage commun de toutes sortes d'hommes et affecte aussi beaucoup la volonté en attisant les motifs pieux, ce qui est la fin principale de la théologie. La puissance pratique de la Bible ne vient pas de l'habilité du prédicateur, mais de l'Esprit de Dieu. Paul a déclaré au sein de l'Église de Corinthe, 2 Corinthiens chapitre 2, versets 1 à 5, « Pour moi, frères, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Par conséquent, la parole devient efficace lorsque le Saint-Esprit l'applique au cœur de ceux qui l'entendent. Donc, le premier point qu'on va regarder dans l'efficacité de la Bible, c'est celui de la parole et l'esprit de conviction. Jean chapitre 15, versets 26 et 27. Quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. On a aussi dans Jean 16, versets 7 et 8, « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » On a aussi dans Hébreux chapitre 4, versets 12 et 13, « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Et dernier passage, Jérémie chapitre 23, verset 29, « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? » Deuxième idée, c'est que la parole est l'esprit de vie. La parole de Dieu est également efficace par la puissance de l'esprit pour le salut. Nous lisons par exemple dans Romains chapitre 8, verset 1 à 4 de la version David Martin. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, lesquels ne marchent point selon la chair, mais selon l'Esprit. Parce que la loi de l'Esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce que ce qui était impossible à la loi, à cause qu'elle était faible en la chair, Dieu, ayant envoyé son propre Fils en forme de chair de péché et pour le péché, a condamné le péché en la chair, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui ne marchons point selon la chair, mais selon l'esprit. Trois autres passages, Ézéchiel, chapitre 37, verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Romains 1, verset 16, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec. » Et dernier passage, 1 Pierre chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Et dernier point qu'on va regarder, les implications pratiques de l'efficacité de la parole par le Saint-Esprit. Première implication, prions pour l'illumination lorsque nous entendons ou que nous lisons la parole. Prions avant d'ouvrir la Bible pour nos dévotions personnelles ou familiales. Dans le psaume 119, verset 18, nous lisons « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. » Également dans le psaume 119, les versets 35 à 37, « Conduis-moi dans le sentier de tes commandements, car je l'aime. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers le gain. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. » Prions aussi pour la capacitation. En anglais, c'est « empowerment », c'est difficile à traduire. Le mot « capacitation », c'est la traduction officielle que j'ai trouvée dans Internet. Donc, la capacitation du prédicateur et des enseignants de la parole et des missionnaires. Capacitation, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous rend capables, qui nous donne le pouvoir. Éphésiens, chapitre 6, versets 19 et 20. « Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » Et dernier passage, Ésaïe, chapitre 11, verset 19, « Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Application. Soyons pleinement persuadés de la nécessité des Saintes Écritures pour révéler la glorieuse personne de Jésus-Christ et de son œuvre du salut. Dans la Bible, nous trouvons tout ce qui est nécessaire pour notre salut, pour notre foi et notre marche chrétienne. Deuxième application. L'unité des Saintes Écritures est facile. Tout est centré sur Christ. Cherchons-le dans toutes ses pages et implorons l'aide des enseignants qualifiés de la parole et du Saint-Esprit. Et dernière application, prenons de plus en plus conscience de la puissance et de l'efficacité de la Bible. Elle est un trésor inestimable. Utilisons-la de plus en plus et de mieux en mieux. Rendons grâce au Seigneur pour ce cadeau qui nous est indispensable. Que notre grand et glorieux Seigneur soit béni, loué et exalté éternellement. Amen.